Un ami m'a raconté qu'il avait un oncle qui vivait dans les Alpes italiennes. Et quand il était jeune, quelqu'un a dit à cet oncle que c'était très mauvais pour la santé que de se laver les pieds. Il ne s'est pas tombé dans les oreilles d'un sourd. Cet homme, le reste de sa vie, il ne s'est plus jamais lavé les pieds. Alors, cet ami m'a dit que c'était un homme charmant, mais que c'était difficile de rester longtemps avec lui pour des raisons olfactives. Et j'ai dû penser à cet homme aujourd'hui parce que le texte que nous allons étudier ensemble vante aussi, à sa manière, les vertus du lavage des pieds. Il se trouve dans l'évangile de Jean, au chapitre 13, à partir du verset 1er jusqu'au verset 17. Et comme d'habitude, j'aimerais vous demander de vous lever pendant la lecture en signe de respect. Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue, l'heure de quitter ce monde et d'aller vers le Père, lui qui avait aimé les siens en ce monde, les aima jusqu'au bout. À l'heure du déjeuner, le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon Iscariote, de le trahir, sachant que le Père lui avait tout donné dans les mains, mais aussi qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en irait vers Dieu. Il se lève de table, pose son vêtement, prend un linge et le met comme une ceinture. Il verse de l'eau dans une cuvette et commence à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait mis comme une ceinture. Il vient alors à Simon-Pierre qui lui dit « Seigneur, toi, tu laves mes pieds ?» Jésus lui répondit « Ce que moi je fais, toi, tu ne le comprends pas encore, mais tu le comprendras plus tard. » Pierre lui dit, « Tu ne laveras pas mes pieds, jamais de la vie. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave pas, tu n'as pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, alors lave-moi pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit, celui qui a pris un bain n'a pas besoin d'être lavé, si ce n'est les pieds, car il est entièrement pur. Or vous, vous êtes purs, mais pas tous. Car il connaissait celui qui allait le livrer. C'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. Quand il avait lavé leurs pieds, repris ses vêtements et s'était de nouveau installé à table, il leur dit, savez-vous ce que je vous ai fait ? Savez-vous ce que je vous ai fait ? Vous, vous m'appelez maître et seigneur, et vous faites bien car je le suis. Si moi, le seigneur et le maître, j'ai lavé vos pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné l'exemple afin que vous vous fassiez comme moi, je vous ai fait. Amen, amen, je vous le dis, l'esclave n'est pas plus grand que son maître, ni l'envoyé plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux si vous les mettez en pratique. Vous pouvez vous asseoir. Le texte qui nous intéresse aujourd'hui est un texte très populaire chez les prédicateurs. Il n'est pas difficile de trouver des prédications à ce sujet, mais en travaillant dessus, j'ai trouvé que c'était un texte difficile. Non pas pour des histoires de traduction comme la dernière fois, mais c'est un texte assez composite, assez complexe dans sa structure. Il n'est pas facile de voir le fil rouge qui a fait que Jean a écrit ce récit comme il l'a écrit. Alors, je me suis penché sur le texte et j'ai trouvé la structure suivante. Alors ici, les numéros que sont les versets, hein, du passage que nous avons lu. Et les couleurs identifient des thèmes qui, à mon avis, vont ensemble. Alors, le verset premier, je crois qu'il faut le voir dans un contexte plus large. C'est-à-dire, je vous ai dit que nous sommes maintenant arrivés dans l'évangile de Jean à un point de transition. Jusque-là, c'était des débats de Jésus avec les uns et les autres. C'était assez polémique, assez agressif vers la fin. Et maintenant, nous entrons dans la phase finale du ministère de Jésus. C'est les dernières 24 heures qu'il est en train de vivre. Et vous imaginez bien que chaque mot compte maintenant. Et le caractère de l'évangile change à partir du chapitre 12 et puis 13 surtout. Vous savez, là, des discussions entre Jésus et ses disciples. Ses ultimes paroles pour eux, pour les préparer à ce qui va venir. Et le verset premier, il me semble qu'il couvre tous ces passages qui vont jusqu'à la passion, parce qu'il nous a dit que Jésus les aima jusqu'au bout. Et c'est ce que Jean veut nous montrer. Or, il est difficile de croire que cet amour extrême se limite au lavage des pieds. Probablement, ici, il y a bel et bien la croix dans l'esprit de l'apôtre. Et donc, je pense qu'il faut déconnecter ce verset-là de ce qui suit. C'est un intitulé, pourrait-on dire, pour les chapitres qui viennent. De même, les versets 2 et... Les versets 2 et 11 ne sont que des précurseurs d'un sujet qui va venir plus tard, à savoir Judas. La trahison de Judas a dû être un déchirement extrême pour Jésus et un traumatisme des plus graves pour les apôtres. Et on sent chez Jean, il lutte avec cette affaire-là. Et ce thème va venir, mais il est déjà annoncé comme dans une symphonie, un thème qui va devenir important. Il y a des petites touches qu'il annonce déjà. Et les versets 2 et 11 font exactement ça ici. Mais ils n'appartiennent pas à proprement dire à cette histoire de lavage de pieds. C'est pour ça que je les laisse de côté, parce que ce sujet, on va le traiter une autre fois. Alors si je regarde ce qui reste, vous verrez ici plusieurs choses. J'ai quatre couleurs ici et je crois qu'il y a quatre choses à distinguer en très peu de versets finalement. Alors, le lavage des pieds proprement dit, les gestes de Jésus, c'est ce que j'ai marqué ici en jaune, les versets 4, 5 et 12. Et c'est quelque chose d'assez facile à saisir. Qu'est-ce qu'il fait Jésus ? Jésus est déjà allongé à table. À l'époque, on mange, chez les Romains, on mange couché. Et donc, il est déjà à table. Le repas a probablement déjà commencé. Et Jésus se lève tout d'un coup. Et il fait des choses un peu étonnantes. Et il se déshabille un peu. Il met un autre vêtement, un vêtement de serviteur. Et après, il commence à laver les pieds de ses disciples. Et une fois qu'il a accompli cet acte, il enlève ce vêtement de serviteur, il se rhabille, il se remet à table. Ça, c'est ce qui est factuel. Alors, je ne vais pas m'attarder longuement dessus, mais culturellement parlant, ce que Jésus fait est tout à fait inconvenant, choquant. Et on voit d'ailleurs la réaction de Simon-Pierre qui dit à Jésus, non. Alors ça, non. Tu ne peux pas faire ça. Les autres disciples, j'imagine qu'ils étaient tout aussi choqués que Simon-Pierre, mais vous savez bien, Simon-Pierre, c'est un gars qui dit tout haut ce que les autres pensent tout bas. Et Simon-Pierre, il interrompt Jésus et il dit, non. Et ça, c'est quelque chose qui va nous valoir une discussion des plus intéressantes. Mais si on regarde maintenant ce qui se greffe autour de ces trois versets qui nous racontent la partie factuelle de notre récit, vous voyez qu'il y a plusieurs choses, et ce n'est pas évident de les identifier tout de suite. En tout cas, moi, j'ai bien souffert en préparant ce message. Le verset 3 est un ajout de Jean. Vous savez, Jean est un apôtre pas comme les autres. Alors, il y avait les 12, c'était le cercle rapproché de Jésus. À l'intérieur de ces 12, il y avait 3 qui étaient vraiment les confidents les plus proches de Jésus, hein, ceux qui l'accompagnaient par exemple sur le mont de la Transfiguration. Et parmi ces 3, il y en avait un qui avait un statut particulier, hein, c'est Jean, dont il nous est dit que c'est le disciple que Jésus aimait. Alors, il les aimait tous, bien entendu, mais apparemment, entre Jean et Jésus, il y avait un lien d'amitié particulièrement fort. Il y a quelques personnes dont il nous est dit que Jésus les aimait de cette manière-là. Il y a aussi Lazare que nous avons vu, qui est un ami de Jésus de ce type. Et même le jeune homme riche, il nous est dit que Jésus l'aimait. Donc il y avait quelques personnes avec qui il avait une affinité toute particulière, et Jean faisait partie. Et non seulement Jean a été un intime de Jésus, comme personne d'autre, il en savait plus de la vie intérieure de Jésus que les autres, mais en plus, Jean est ce que les anciens ont appelé le théologien. C'est le plus théologien des apôtres, mis à part peut-être Pierre, mais qui ne faisait pas partie des 12. Et Jean nous a laissé des écrits d'une profondeur stupéfiante. Alors, si vous mélangez ces deux-là, ces deux éléments, cette grande intimité avec Jésus et cette capacité à penser profond. Vous savez Jean, l'apôtre, qui réfléchit sur ce qu'il a vécu. Et il se souvient de ce geste de Jésus. Et puis, il comprend quelque chose. Et c'est ce qu'il nous livre au verset 3. Sachant que le Père lui avait tout donné dans les mains, et qu'il était venu de Dieu, et qu'il s'en irait vers Dieu. Et en réfléchissant, Jean s'est dit, mais bien sûr, il nous l'a montré, par des gestes. Tout à l'heure, Eric a lu un texte qui dit en des mots théologiques ce que Jésus est en train de dire ici par des gestes. Vous avez là cette histoire qui est marquante dans tout l'évangile, cette descente de Jésus, qui était dans la gloire de son Père, cette descente sur terre, cette descente jusqu'au plus profond, juste dans la fange des hommes, cette descente jusqu'à l'humiliation extrême, son exécution à la manière d'un esclave. Et cette crucifixion, cet abaissement extrême, va devenir en même temps élévation. Et le mouvement s'inverse. Et maintenant, tout tire vers le haut. Et plus rien ne peut l'arrêter. Il monte vers le Père, dans la gloire. Ça, c'est Philippiens 2. Vous lirez ça. Et vous trouvez la même chose dans les gestes de Jésus. Il est à table. Il est bien installé. Qu'est-ce qu'il fait? Il se lève. Il se déshabille. Il prend un linge. Et puis, comme dit Paul, il prend la condition d'un esclave. Il va s'habiller en esclave et il va laver les pieds. Il est venu pour rendre service. C'est ça sa mission. Il lave les pieds et une fois que cet acte est accompli, il se rhabille, il retrouve sa place à table. Jean nous dit que Jésus, sans parole, a prêché Philippiens 2 par des gestes. Voilà le verset 3. En introduction, Jean nous livre déjà ça. Alors vous imaginez le feu d'artifice qui est à venir. Jésus commence donc ses actes et, comme je vous ai dit, il est interrompu par Simon-Pierre. Simon-Pierre, il ne veut pas. Il ne veut pas se faire laver les pieds. Et ça, c'est le passage des versets 6 à 10, mais surtout les versets 8 et 10, réponse de Jésus. Et là, vous allez voir autre chose. Alors, nous l'avons lu, pas besoin de répéter, Jésus veut aussi laver les pieds de Simon-Pierre, et Simon-Pierre dit non, non Seigneur, ça non. Et Jésus, il coupe court. Hein, il ne se laisse pas embarquer dans ce débat-là. Il dit une parole assez sèche. Si je ne te lave pas, tu n'as pas de part avec moi. Alors vous pouvez vous dire, n'est-ce pas un peu exagéré? Je veux dire, laver les pieds ou non? Est-ce que là se joue l'avenir, le sort de Simon-Pierre? Que Jésus lui lave les pieds? Non, bien sûr que non. Ce n'est pas le lavement en tant que tel, mais ce qui est derrière. Et là, vous trouverez maintenant une nouvelle signification à ce lavement. Il s'agit du salut en Jésus-Christ. Nous avons déjà cité dans la première partie du culte les textes cruciaux. Jésus s'est fait serviteur, ce qui nous renvoie tout de suite vers le serviteur souffrant d'Ésaïe. Nous avons lu ces textes. Le serviteur qui a payé à notre place, qui a versé son sang pour nous, qui a payé le prix de nos transgressions, qui a obtenu notre pardon, ou qui, comme dit l'Apocalypse, nous a lavé dans son sang. Si je ne te lave pas, tu n'as pas de part avec moi. Si tu veux être des miens, il faut accepter que je te lave. Il faut que tu comprennes ça, Simon-Pierre. Alors Simon-Pierre, vous le connaissez, il est tout enflammé et bien sûr il veut être disciple de Jésus. Et non seulement il veut être parmi les disciples, mais il veut une place de choix. Alors il dit, ah ben, si c'est comme ça, je veux la totale. Les pieds, les bras, la tête. Et de nouveau, il est un peu, dans un élan, mal orienté. Et Jésus lui fait comprendre. Et sa réponse est intéressante et difficile à la fois. Jésus lui dit, celui qui a pris un bain n'a pas besoin d'être lavé, si ce n'est les pieds, car il est entièrement pur. Alors, quand j'ai étudié ça, Je n'ai pas compris de suite parce que Jésus semble se contredire lui-même. Dans un premier temps, il fait de ce lavement des pieds le truc essentiel. Et on peut le comprendre en l'identifiant au salut en Jésus-Christ. Et dans un deuxième temps, il semble le relativiser. Le lavement des pieds, ça suffit parce que tu es déjà pur. Alors, il faut comprendre. Mais en fait, c'est un phénomène que nous avons déjà vu dans notre étude de l'évangile de Jean, au chapitre 10, à savoir que quand Jésus parle, les métaphores qu'il utilise sont fluides. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire qu'il peut dire quelque chose, et suite à une réaction, ou à une objection, un argument, il dit autre chose, en utilisant la même imagerie, mais en attribuant de nouvelles significations. Nous avons vu ça dans le chapitre 10, quand Jésus dit « Je suis la porte ». Et le bon berger entre par la porte. Alors que les voleurs, ils montent par-dessus les grillages. Et quelques phrases plus tard, il dit « Je suis le bon berger ». Alors qu'il était la porte par laquelle passe le bon berger. C'est parce que ces images sont fluides. Et donc, ce n'est pas parce qu'il a dit « je suis la porte » que dans tout ce qu'il va dire sur les portes, c'est toujours lui la porte. Voyez ? Et c'est la même chose ici. Dans la première réponse à Simon-Pierre, le lavant des pieds symbolisait en quelque sorte le salut. Dans ce qui suit, un peu plus tard, ce n'est plus le salut. Le salut, c'est prendre le bain. Et le lavant des pieds, c'est quelque chose qu'on fait en plus parce qu'on s'est sali. Et l'image ici, c'est l'image sans doute très courante de l'époque, à savoir quelqu'un qui allait, par exemple, à une fête chez quelqu'un, avant d'y aller, il se lavait, il prenait un bain. Mais pour s'y rendre, il fallait bien qu'il marche dans les rues de Jérusalem ou sur les routes poussiéreuse de Palestine. Et donc en arrivant, il s'était nécessairement sali. Et il y aurait un esclave qui lui laverait les pieds. Non pas tout le corps, ce n'est pas nécessaire. Il est déjà propre. Mais il s'est sali en marchant, donc il faut enlever ces quelques salissures. Et donc ici, Jésus reprend, je crois, cette idée pour dire, voilà, vous êtes pur de par mon œuvre. Mais vous aurez besoin encore d'être lavé de temps en temps parce que vous vous salirez. Voilà, les versets 6 à 10. Après, comme vous le savez, le lavement des pieds continue. Et puis, à la fin, versets 13 à 17, alors là, Jésus passe à l'application en direct. Maintenant, il va dire, voilà, qu'est-ce que je vous ai montré là ? Ce qu'il en tire est assez net, assez facile à comprendre, assez direct. Je crois qu'il n'y a pas besoin de beaucoup en dire. Il dit, voilà, si moi je fais ça, vous devez le faire vous aussi. Tel maître, tel disciple. Si vous voulez être des miens, vous devez avoir cette même attitude. Et là, de nouveau, le lavant des pieds a changé de sens. Parce que, bien sûr que nous ne pouvons pas faire ce qu'il a fait. Bien sûr, il ne s'agit pas pour nous de porter sur nos épaules la destinée du monde, comme Jésus a pu le faire. Non, mais ici, ce qui compte, c'est cet abaissement volontaire. Jésus s'est abaissé en devenant le serviteur. Et il dit que ceux qui veulent le suivre doivent faire de même. C'est une attitude qui caractérise ses disciples, qui doit les caractériser parce qu'elle caractérise leur maître. Et donc, dit-il, si vous voulez être des miens, soyez des serviteurs. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux si vous les mettez en pratique. Alors, question fatidique. Et alors ? Et alors ? Face à ce texte, assez compliqué finalement, si j'ai raison de le structurer de cette manière, qu'est-ce qu'on peut en dire de pratique pour nous ? Qu'est-ce que ça peut vouloir nous dire pour nous aujourd'hui ? Évidemment, si on a quelque chose d'aussi composite, je pense qu'il y a aussi tout un foisonnement de conclusions à tirer pour nous. Alors, le verset 3, la biographie céleste de Jésus et son parcours qu'il a mené du ciel sur terre et de nouveau au ciel, bien entendu, ce n'est pas un texte qui appelle une application immédiate de notre part. Il nous enseigne quelque chose sur Jésus et c'est très important de bien écouter ces textes parce qu'ils nous disent quelque chose sur celui qui est au centre de tout et celui qui doit être au centre de notre existence. Là, vous avez des textes qui vous permettent de mieux le connaître, de savoir ce qu'il a fait, comment il a vu les choses, quelle était son attitude. Donc, pas d'application directe, mais je dirais des textes qui doivent être médités. Plongez-vous dans Philippiens 2 et plongez-vous dans des versets tels le verset 3. Faites vôtre cette perspective d'un Jésus qui a quitté la gloire pour descendre jusqu'à nous et qui a retrouvé la gloire depuis. Les versets 4, 5 et 12 vous racontent l'histoire du lavement des pieds. Là encore, je dirais pas d'application directe et immédiate. Vous savez peut-être qu'il y a des églises où on pratique le lavement des pieds un peu à la manière d'un sacrement. Il n'y a pas si longtemps que ça, on a aussi pu voir le pape laver les pieds de quelques nouveaux baptisés, je crois. Donc, il existe dans l'Église universelle des traditions de ce type. On maintient le lavement des pieds. Je ne pense pas que ce soit vraiment indispensable. Et puis, c'est vraiment un signe assez lié à la culture environnante de Jésus, qui n'est plus la nôtre. Si on se mettait à se laver les pieds les uns des autres, ça n'aurait plus le même sens. Donc je ne suis pas sûr que ce soit demandé, que Jésus nous demande de faire de même aujourd'hui. En revanche, ce passage est très intéressant sur un tout autre plan, je trouve, pour les enseignants de l'Église. Peu importe si vous êtes à l'école du dimanche ou dans les études bibliques ou en chaire, peu importe, Jésus nous donne ici une leçon d'enseignement, il me semble. Parce que lui aussi, il aurait pu faire un discours à la Philippiens 2. Mais probablement les disciples n'auraient pas bien pu saisir ce qu'il leur disait. Et puis vu le chaos qui allait s'abattre sur eux dans les heures qui suivent, il n'en serait peut-être pas resté grand-chose. Mais ces quelques gestes qui racontent la même histoire, c'est très puissant comme enseignement. Et vous pouvez être certain qu'ils n'ont jamais oublié, vu la réaction de Simon-Pierre, hein, son choc devant ses gestes, je pense qu'on peut dire que Jésus a donné un enseignement très, très puissant, sans parole. Et je trouve que pour les enseignants qui peuvent se trouver ici, c'est à méditer. Je passe pour l'instant sur la partie versets 8 et 10, je me garde ça pour la fin. Quelques mots peut-être sur les versets 13 à 17. Qui, à mon avis, sont assez faciles à capter. Et là, nous sommes vraiment dans la partie application de la part de Jésus. Hein, il le dit très clairement, vous devez être comme j'ai été. Hein, je m'attends de la part de mes disciples à ce qu'ils soient des serviteurs. Et ça, c'est peut-être pas inutile de le redire. Parce que c'est souvent là que le bât blesse, il me semble, dans l'Église. Parce que on est tous des gens très spirituels, très occupés par ailleurs. Et puis on vient à l'Église, on vit une louange clé en main, édifiant. On se fait raconter de belles histoires pendant la prédication, et puis on s'en va, et puis recommence la semaine. On est comme des consommateurs de biens spirituels, je dirais. On vient pour prendre et après, hop, ça repart. Mais c'est pas ça, au fond. Vous n'êtes pas appelé à être consommateur. Vous êtes appelé à être serviteur. Ne l'oubliez pas. Et je vois que souvent dans l'Église, quand il y a besoin de gens, il n'y a rien. Récemment, on était au week-end d'Église, il fallait quelqu'un pour monter un jeu. Nada. On a fait une liste pour la garderie pendant l'été. Pas grand monde. Et chaque fois qu'on fait appel à quelque chose de ce type, des choses qui ne sont pas forcément très exaltantes, il n'y a plus personne. Tout le monde est aux abonnés absents. Philippe, récemment, il a cherché à monter une commission pour accompagner le ministère d'Éric. Je ne sais pas à qui il a demandé, mais il m'a dit « Tout le monde a refusé. » Voilà. Je crois que je n'ai pas besoin d'insister. Vous êtes des serviteurs. Vous êtes censés être des serviteurs. Alors, soyez-le. Maintenant, encore quelques mots sur les versets 8 et 10, qui sont aussi, me semble-t-il, très riches en application. Alors d'abord le verset 8. Le verset 8, c'est ce verset où Jésus dit à Simon-Pierre, « Si je ne te lave pas, si je ne te lave pas, tu n'as pas de part avec moi. » On ne fait pas équipe. Et je pense que cette parole, elle devrait te parler à toi, qui que tu sois ici, qui n'est pas encore chrétien. Si je ne te lave pas, dit Jésus, tu n'as pas de part avec moi. Tu es peut-être sympathisant de la cause. Tu viens souvent, Tu écoutes attentivement, tu trouves ça bien, tu aimes bien les cantiques, tu te sens bien, les gens sont sympas, c'est bien. Mais ne vous y trompez pas. Jésus nous dit ici, si je ne te lave pas, tu n'as pas de part avec moi. Et même si tu es sympathisant et tu as fait tous les cultes pendant toute ta vie, tu n'es pas des miens. Si vous voulez être des siens, vous devez vous faire laver. Et vous ne pouvez pas le faire vous-même. C'est un abandon. C'est reconnaître que je ne peux pas m'en sortir. C'est devenir dépendant. Et Dieu sait que c'est ce que nous détestons le plus, être dépendant. L'horreur des horreurs pour l'homme moderne, occidental, c'est de devenir un cas dépendant. Et on est prêt à se faire euthanasier pour ne pas être dépendant de quelqu'un. Pour ne pas que quelqu'un doive me laver ou que sais-je. S'occuper de moi. Ça, c'est l'horreur absolue. Non, nous, on veut mourir dans la dignité. La dignité, comme si c'était indigne que quelqu'un s'occupe de moi. Et Jésus nous dit, mes amis, si vous voulez être avec moi, devenez indigne. Laissez-moi m'occuper de vous. Parce que si vous n'acceptez pas d'abandonner cette fierté, si vous n'abandonnez pas d'accepter cette volonté de vous débrouiller vous-même, vous ne pouvez pas être aimé. Si je ne te lave pas, tu n'as pas de part avec moi. Et puis, pour finir le verset 10 qui nous dit « Celui qui a pris un bain n'a pas besoin d'être lavé, si ce n'est les pieds, car il est entièrement pur. » Et là, je trouve que c'est un verset qui doit t'intéresser, toi, qui que tu sois ici, qui a voulu te faire laver par Jésus. Et Jésus te dit, tu es pur. Rendez-vous compte. Il dit à Simon-Pierre, tu es pur. Et je trouve que c'est une des plus belles paroles que Simon-Pierre a reçues dans toute sa vie. Tu es pur. Ton cas est réglé. Il dit ça à Simon-Pierre alors qu'il sait pertinemment que dans les 24 heures, Simon-Pierre va se retourner contre lui, va jurer ses grands dieux qu'il n'a jamais vu cet homme. Simon-Pierre aura besoin d'être pardonné. Ça, c'est une autre affaire. Il le sera. Mais foncièrement, Jésus, regardant cet homme et cette bande de disciples qui vont tous l'abandonner, il le regarde dans les yeux, il dit, vous êtes pur. Et ça, c'est précieux de savoir que nous sommes purs aux yeux de Dieu. Parce que le sacrifice du serviteur souffrant, il ne couvre pas seulement vos fautes du passé, il couvre aussi vos fautes futures. Tout est accompli, a dit Jésus. Tout est accompli. Vous êtes purs, dit-il. Celui qui a pris un bain n'a pas besoin d'être lavé, si ce n'est les pieds. Il y a quand même besoin de se laver les pieds, malgré cette pureté. Et ça, c'est l'aspect sur lequel je voudrais terminer. Il y a dans la vie chrétienne besoin de se laver les pieds, au sens figuré. Quand j'étais un gamin, j'étais à l'école chez les pères, et il nous faisait faire un exercice intéressant, un examen de conscience. C'est-à-dire, il nous enseignait de tous les soirs, passer en revue la journée et de se dire, ah oui, là, ça, c'était pas top. Là, j'ai fauté. Là, carrément, j'aurais pas dû dire ça. Et je crois que c'est un exercice très utile. De passer en revue la journée et de vous dire, voilà, Seigneur, regarde-moi avec mes pieds sales. Je suis pur à tes yeux, mais là, je me suis encore sali aujourd'hui. J'ai fait ça, ça, et je te le remets. Pardonne-moi. Et il le fera. Et Si vous faites ça sur le plan individuel, c'est très bien, mais je crois qu'on peut aussi le faire collectivement. Alors, j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises avec les uns et les autres. Moi, je trouve que ça manque un petit peu comme dimension dans nos cultes. On vient au culte, et hop, on chante un truc entraînant, et hop, on va dans l'esprit de louange, et hop, on y est. Mais on vient les pieds sales. Est-ce qu'on ne pourrait pas, de temps en temps, prendre juste 2 minutes, se placer devant Dieu, avant de se lancer dans le Saint des Saints, et de lui dire, lave-nous les pieds. L'Église, elle a choisi de confier la première partie du culte à une personne. Et on parle uniquement de louange, mais de fait, à vous qui êtes louangeur, elle vous a donné carte blanche pour la liturgie du culte. Et je trouve qu'elle vous fait confiance d'une manière assez impressionnante. Mais du coup, vous avez une responsabilité. Et moi, je voudrais vous proposer un exercice, c'est de prendre une fois, une de ces vieilles confessions de foi, pardon, une de ces vieilles liturgies, peu importe d'où elles viennent, que ce soit catholique ou réformée ou Saint Jean Chrysostome, orthodoxe, que sais-je, peu importe. Prenez un de ces vieux textes, centenaires, millénaires, qui sont souvent bourrés de sagesse. Vous prenez un de ces textes et vous regardez et dites, voilà comme ces gens célébraient le culte. Est-ce que c'est bien, c'est pas bien? Sans doute tout n'est pas bien. Mais vous trouverez peut-être des choses qui manquent. Vous savez, nous les évangéliques, on était tout enthousiastes dans notre mouvement. Et on a fait table rase du passé. On voulait être plus spontané, on voulait plus de ces formules toutes faites, de ces prières toutes écrites, on veut être spontané, et c'est bien. On veut des cantiques plus entraînants, et c'est bien. Mais parfois, je crois, on a vidé le bébé avec l'eau du bain. Et notamment sur cet aspect-là, je trouve que ces vieilles liturgies nous enseignent quelque chose, qu'il y a besoin, collectivement, comme individuellement, quand nous nous rassemblons, de dire au Seigneur, « Seigneur, ça fait une semaine qu'on était dans le monde, sur les routes sales du monde. Nous sommes purs et nous venons devant toi en tant que tel, mais nous avons besoin de confesser nos fautes. » Parce que si nous ne le faisons pas, le risque est que si Jésus se présentait à notre culte, il dirait peut-être, mes amis, c'est vrai, vous êtes purs, mais entre nous, vous puez des pieds. Prions. Seigneur Jésus, nous te remercions de cette parabole du lavement des pieds, de cet enseignement que tu nous as laissé à travers ton disciple bien-aimé Jean. Et nous voulons te demander de nous laver. Nous avons tous besoin ici d'être lavés. Les uns, de recevoir ce bain qui purifie, qui régénère, qui fait d'eux des disciples. Et les autres, de ce lavement ponctuel qui enlève les scories de la semaine, des mois, des jours. Nous avons tous besoin d'être pardonnés. Lave-nous, Seigneur. Amen.